Et tout de suite, les infos. Des infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobo Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
Au sommaire, les boulangers annoncent une augmentation du prix du pain d'ici le 15 décembre si rien n'est fait. Attaque Inata, l'enquête administrative annoncée par le président du Faso est attendue pour ce mardi 30 novembre. Marche de protestation du 27 novembre, le maire de Ouagadougou monte au créneau et promet des actions judiciaires à l'endroit de ceux qui ont saccagé l'état civil. Après 8 ans de gestion, Bassolma Bazier passe la main à Moussa Diallo à la tête de la Confédération Générale du Travail du Burkina, CGTB. En football, Lionel Messi, au 7e ciel du football, l'Argentin a remporté pour la 7e fois le Ballon d'Or. Bonjour à tous et bienvenue. Dans une correspondance datée du 25 novembre adressée au ministre du Commerce, la Fédération burkinabè des patrons de boulangerie, pâtisserie, confiserie annonce que la miche de pain coûtera 200 francs CFA à compter du 15 décembre si rien n'est fait par le gouvernement. Par la présente, nous portons à votre connaissance que si aucune solution ou mesure d'atténuation n'ont pu être trouvées afin de soulager le secteur de la boulangerie d'ici mi-décembre 2021, la fédération sera dans l'obligation de procéder à une augmentation du prix du pain qui passera de 150 à 200 francs. La fédération explique que c'est pour assurer sa survie, mentionnant que la situation a déjà entraîné la fermeture de plusieurs boulangeries. Elle évoque également que le prix de la farine qui est passé de 350 000 à 420 000 francs CFA au-delà du prix de la farine, elle dénonce une concurrence déloyale d'un de leurs confrères. À Bobo Dioulasso, un immeuble de 4 niveaux à usage commercial est parti en fumée. La nuit dernière, pas de victimes, mais des dégâts matériels sont à signaler. Nous en savons plus avec Bourema Badini.
C'est avec grand étonnement que ces passants ont découvert ce matin le visage défiguré de l'immeuble Wobgo, résultat d'un incendie qui s'est déclaré au cours de la nuit, un spectacle apocalyptique qui a attiré de nombreux curieux sur le boulevard de la Révolution.
On était là à la gare d'Itandé, donc on nous a dit que le feu a pris pour à la voie des boulevards sur la route de Ouagadougou. C'est ça, nous aussi on est venu regarder ici. Mais on prie les dieux, Dieu n'a qu'à aider tout le monde. On peut plus que ça.
Les choses sont allées très vite. Les soldats du feu, arrivés peu après le début du sinistre, ont tenté de sauver ce qui pouvait l'être. Après plus de 3 heures d'opération, le commandant de la 2e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers félicite ses hommes.
C'est aux environs de 21h50 que nous avons reçu des demandes de secours pour le feu dans un immeuble R+4 à usage commercial. Rapidement, nous avons envoyé les moyens sur les lieux et à notre arrivée, le bâtiment était déjà totalement embrasé. Et les opérations consistaient à protéger les habitations voisines et engager l'extinction et poursuivre la reconnaissance pour être sûr qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur. Fort heureusement, je dirais, après nos reconnaissances, nous n'avons pas enregistré de victimes intoxiquées par les fumées ou brûlées, mais il faut dire que les dégâts d'ordre matériel sont considérables. Nous allons céder les lieux à la police ou à la gendarmerie pour les enquêtes, pour éventuellement déterminer les causes et les circonstances de cet incendie-là.
Presque tout est à refaire. Une grande perte pour l'ensemble de la ville de Bobo-Dioulasso.
On a été informé par la population riveraine, ce qui s'est passé sur le pouvoir, notamment au secteur numéro 2. À l'arrondissement numéro 1, c'est vraiment déplorable, c'est triste. C'est tout un bâtiment qui est parti en feu. Ce qu'on a, le conseil est vraiment amer. Fait une perte énorme.
L'immeuble Wobgo, réceptionné il y a 8 mois, abritait plusieurs services, dont l'agence d'une banque.
Parlons sécurité dès à présent. Hier lundi, le président du FASO, Roch Kabore, a nommé l'instructeur pilote, le colonel-major Wenwauga Kéré, inspecteur général des forces armées nationales. Cette nomination intervient quelques semaines après de sanglantes attaques terroristes contre des positions de l'armée qui ont révélé de graves dysfonctionnements. On se rappelle également, après l'attaque de Inata, le président du FASO, Roch Kabore, avait annoncé 3 jours plus tard l'ouverture d'une enquête administrative au regard des révélations sur le manque de nourriture ainsi que des primes non versées aux soldats. Justement, les résultats de ces enquêtes sont attendus pour ce mardi 30 novembre 2021. Retour sur la marche de protestation du 27 novembre dernier, le maire de la ville de Ouagadougou fait le constat du département de l'état civil saccagé. Le maire Arma Bewende situe les responsabilités de cette marche et accuse des responsables politiques d'avoir incité les jeunes à la casse. Il dit ne pas avoir reçu une demande de manifester. Arma Bewende était face à la presse lundi. Revivons l'ambiance de cette rencontre avec Charles Da.
Au niveau de la commune de Ouagadougou, nous n'avons reçu aucune déclaration de manifeste. C'est pourquoi, face à la montée des réseaux sociaux qui incitaient les gens à sortir pour marcher, nous avons cru bon de faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire avertir les forces de défense et de sécurité intérieure de prendre les dispositions.
Il a voulu éviter le danger. Malheureusement, le pire est arrivé. Mais le maire ne regrette pas son acte.
Si c'était à recommencer, je ferais exactement la même chose. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun regret par rapport à cet acte.
Une marche pour exiger les meilleures conditions des FDS au front s'est tournée autrement. La mairie a été prise pour cible. Conséquence, le département de l'état civil complètement saccagé. Il faut punir les commanditaires de cette marche. Et le maire condamne déjà des responsables des partis politiques et certaines organisations. Armand Pierre Bewende, maire de la commune de Ouagadougou.
Mais aujourd'hui, c'est imputable à tout ce qui lit clairement et qu'on reconnaît, surtout les chefs de partis politiques qui ont déclaré clairement qu'ils supportaient cette marche. Et également aux organisations qui ont donné des conférences de presse pour dire que c'est eux qui appellent à manifester. Donc c'est eux qui vont payer les casses. Parce que c'est eux qui ont appelé les gens à sortir sans prendre les dispositions pour que les gens sortent d'une manière, ordonnée et disciplinée. Donc c'est eux qui sont les seuls responsables.
L'enquête va-t-elle aboutir? Le maire affirme avoir des images des personnes qui alimentaient les manifestants sur le terrain avec des produits excitants et illicites.
Et nous avons pu avoir des images des personnes qui alimentaient les manifestants avec des produits excitants et avec des produits illicites. Et c'est pourquoi d'ailleurs la police a tout fait pour contenir ces jeunes gens qui n'avaient pas tous leurs moyens pour agir.
Manifester dans les rues n'est pas interdit, mais toute manifestation doit être soumise à une déclaration avec toutes les pièces justificatives, ce qui n'a pas été le cas chez les manifestants, déclare le maire. Le service de l'état civil reste toujours opérationnel. Il a été délocalisé pour continuer de servir la population.
Vie syndicale, comme je vous l'annonçais en titre, la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, a désormais un nouveau patron. Il s'agit de Moussa Diallo, remplaçant ainsi Bassolma Bazier qui a passé 8 ans à la tête du CGTB. Procès Thomas Sankara à présent, après le passage de Ernest Nongma Ouédraogo à la barre. Le procès s'est poursuivi ce mardi avec toujours l'interrogatoire de Mousbila Sankara. Pour en savoir plus, nous avons Abdoul Fattah Tiemtouré au bout du fil. Abdoul Fattah, bonjour.
Oui, bonjour Abdelkader et bonjour Omega.
Alors, Abdel Fattah, qu'est-ce qui était donc au menu des échanges aujourd'hui au procès?
Vous l'avez dit, Kader, l'interrogatoire de Moustila Sankara s'est poursuivi ce matin. Il vient d'ailleurs de s'achever, l'ancien ambassadeur du Burkina en Libye, qui se dit apaisé d'avoir pu parler devant un tribunal, celui qui a laissé entendre hier qu'il a été, excusez-moi du terme, imbécile d'avoir cru à Blaise Compaoré et de l'avoir même aidé dès les premières heures du Front Populaire. Et il se justifie ici, on a tout fait avec lui, parlant de Blaise Compaoré, puisque s'il n'avait pas donné son accord, le 4 août n'aurait pas eu lieu et après on a traversé des difficultés en timbre et le 15 octobre pouvait être l'une de ces difficultés-là. Et Moussbila Sankara dit avoir cru à la promesse de l'approfondissement de la révolution faite par le nouveau chef Blaise Compaoré. Cependant, Moussbila Sankara refuse de croire que Blaise Compaoré a fait tuer Thomas Sankara. Selon lui, Blaise Compaoré a fabriqué des monstres qui l'ont bouffé, faisant référence à Yassine Kafando et Gilbert Diendéré. D'ailleurs, selon lui, il y avait une rivalité entre ces deux derniers qui voulaient chacun montrer sa fidélité à Blaise Compaoré. De l'avis de Moussbila Sankara, c'est Yassine Kafando qui a perpétré le coup d'État et Blaise l'a assumé. L'ancien ambassadeur en Libye décrit également des relations entre Sankara et Muammar Kadhafi, pas toujours au beau fixe, puisque le guide libyen avait une ambition qui dépassait les frontières de son pays et qu'il attendait de Sankara un soutien dans ce sens, mais Sankara ne l'entendait pas de cette oreille. Mais sur cet aspect, laissant entrevoir des implications sous-régionales et internationales dans le coup d'État d'octobre 87, Moussbila Sankara est réticent à aller plus loin. A contrario, le témoin ne manque pas de revenir sur ses 13 mois de détention et de torture, par deux fois d'ailleurs, et il l'a répété ce matin, il était sous la supervision de Jean-Pierre Palme à la gendarmerie et de Gilbert Diendéré au Conseil de l'Entente pour sa deuxième détention. À présent, Moussbila Sankara a laissé la place à Fidèle Toé, ancien ministre sous la Révolution. Il est en ce moment même devant les juges pour sa déposition.
Merci beaucoup, Abdel Fattah Tiemtouré. Cette brève à présent, le gouvernement burkinabé a reporté la conférence des partenaires pour le financement du PNDS préalablement prévue les 2 et 3 décembre. Un report dû à l'apparition du nouveau variant de la COVID-19 et la rapidité de sa propagation en Europe, peut-on lire dans le communiqué signé le ministre de l'Économie et des Finances. Mamadi Sawadgo, dit Kadhafi, a été réélu à la tête de la Chambre de commerce de l'industrie du Burkina, et ce pour 5 ans. Avec lui, ce sont au total 21 élus consulaires qui vont désormais diriger la Chambre de commerce. La cérémonie d'installation a eu lieu ce lundi à Ouagadougou. Les détails avec Valérie Guéré.
Kadhafi, de son vrai nom Mahamadi Sawadogo, est réélu à la tête de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina, CCIBF, pour un mandat de 5 ans. Une fois de plus, l'homme a su retenir l'attention de ses pairs, qui lui renouvellent leur confiance. Et pour ce nouveau mandat, les ambitions sont grandes. Mahamadi Sawadogo, président de la CCIBF.
Nous avons donc le renforcement donc des capacités et d'appui donc au secteur privé, également donc le renforcement des infrastructures économiques et entre autres. Donc tout ça, ça nous amène à avoir plus d'une centaine d'actions à mener. Et ça va nous nécessiter à mobiliser plus de 200 et quelques milliards.
Au total, 21 élus consulaires auront la lourde tâche de diriger la structure. Un sentiment de satisfaction et de confiance, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a officiellement installé les élus du jour. Haruna Kabouré, ministre du Commerce.
J'ai confiance en l'équipe. C'est une équipe composée d'opérateurs économiques avertis, qui ont une grande expérience et qui plus, c'est un président sortant qui a été plébiscité par ses pairs parce qu'ils lui ont fait une deuxième fois confiance. Je pense qu'ils sauront corriger ce qui n'a pas fonctionné durant la première mandature.
Mahamadi Sawadogo est un homme d'affaires burkinabé qui opère notamment dans le domaine des hydrocarbures. Pour ces élections, il était candidat unique à sa propre succession.
L'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARSE a organisé ce lundi 29 novembre un atelier de sensibilisation des acteurs sur le secteur de l'énergie et sur les missions de l'ARSE. Objectif, renforcer la connaissance des acteurs légaux du secteur de l'énergie en matière de régulation et leur fournir des informations sur la mise en place des marchés régionaux de l'électricité au sein de l'espace CDAO. Le compte-rendu signé Corinne Sawadgo et Saouda Kafando.
L'autorité de régulation du secteur de l'énergie met la puce à l'oreille des acteurs légaux du secteur de l'énergie à travers un atelier qui s'inscrit dans la dynamique d'informer les participants sur les missions et le rôle du régulateur qui sont, entre autres, veillés à l'application des textes qui gouvernent le secteur de l'énergie et protéger les intérêts des consommateurs. Mariam Nikema, présidente de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie.
L'ARSE a été créé il y a plus de 10 ans aujourd'hui. On a toujours programmé cette activité pour que les acteurs avec lesquels nous travaillons, pour qu'on puisse se comprendre, se connaître. Le but, c'est quoi? C'est une cohérence dans nos activités pour promouvoir le développement des activités du secteur de l'énergie. Nous travaillons pour l'atteinte du même objectif, à savoir produire l'électricité en quantité et en qualité et faciliter l'accès des populations et des usagers à une électricité fiable et moins chère.
Par ailleurs, au niveau sous-régional, les différents acteurs œuvrant dans le secteur de l'énergie travaillent à la construction d'un marché sous-régional de l'électricité. Léonard Sanon, directeur des affaires juridiques et du contentieux à l'autorité de régulation du secteur de l'énergie.
Le Burkina Faso est vraiment intéressé par ces travaux-là. Et nous y participons. Cet atelier serait l'occasion d'informer les participants sur les travaux en cours au niveau de l'espace communautaire CDAO et surtout les perspectives de la mise en place de ce marché régional de l'électricité au niveau de la CDAO.
3 jours durant, les participants feront de plus amples connaissances sur le rôle et les missions de l'autorité de régulation.
Les lampions de la 26e édition des Nuits atypiques de Kudugu se sont éteints dimanche sur note de satisfaction des organisateurs. Les 12 artistes professionnels retenus pour ce festival ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur d'un public féru des lives. Retour sur ces nuits artistiques avec Sabuna Ouedraogo.
Toutes les 4 soirées musicales du festival ont tenu leur promesse avec la totalité des artistes annoncés qui ont répondu présents à ce rendez-vous culturel de Kudugu. Des prestations en live qui ont permis au public de se régaler et de communier avec leurs artistes préférés.
Pour les nuits atypiques, c'était vraiment bien. Tous les artistes qui sont passés, que ce soit Tania, Billa Kakura et toutes les artistes qui ont participé, c'était vraiment nickel.
En tout cas, on a apprécié la prestation des artistes. C'était agréable, c'était ému de voir l'artiste prester.
Cette satisfaction des spectateurs est partagée par les artistes qui n'ont pas toujours l'opportunité de jouer en live. Bill Akakura, artiste musicien.
Les artistes ont l'habitude d'aller tourner en Europe et puis ailleurs. Il faut que nous aussi on ait des scènes. Comme les NAC pour pouvoir s'exprimer devant notre public. Voilà.
Les organisateurs se frottent les mains pour la tenue de l'édition 2021 du festival dans un contexte social un peu difficile.
Je suis un homme satisfait parce que je ne croyais pas qu'on pouvait tenir cette édition. Mais je suis très satisfait des artistes dans l'ensemble parce que chacun s'est donné comme il fallait. Surtout que ce sont des professionnels et la chance que nous avons eue cette année, on a un très bon son et de la bonne lumière aussi. Ça aide beaucoup.
La prochaine édition du Festival des Nuits atypiques de Kudugu aura lieu du 30 novembre au 4 décembre 2022 avec pour thème culture et cohésion sociale. Sabuna Ouedraogo, Kudugu Radio Omega.
Actualité internationale en football, Lionel Messi a décroché pour la 7e fois le Ballon d'Or France Football, la plus prestigieuse distinction individuelle remise à un footballeur ce 29 novembre 2021 à Paris. Il a devancé le Polonais Robert Lewandowski et l'Italien Jorginho. Il est notamment récompensé pour avoir remporté la Copa América avec l'équipe d'Argentine.
L'invité du jour.
l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé, en collaboration avec le MRTC au Mali et la London School de l'Angleterre, ont mené de 2017 à 2020 une étude sur la vaccination saisonnière contre le paludisme avec la chimioprévention du paludisme saisonnier. Objectif, trouver une approche nouvelle pour le contrôle du paludisme dans la zone sahélo-sahélienne. Les résultats de cette étude ont été rendus publics le jeudi 25 novembre à Ouagadougou. Interrogé par Judith Traoré, le professeur Jean Bosco Ouédraogo nous explique le concept du paludisme saisonnier, les zones les plus touchées par le paludisme saisonnier et les résultats de l'étude.
Professeur Jean Bosco Ouédraogo, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que le palud saisonnier ?
Le paludisme saisonnier, c'est un concept qui existe depuis belle lurette et c'est défini à partir donc des périodes de transmission du paludisme. Nous avons un pays où le climat est saisonnier. Ça veut dire qu'on a une saison sèche et une saison de pluie. Et le paludisme mime ces deux saisons-là. Le paludisme dans notre pays est beaucoup plus intense en saison de pluie qu'en saison sèche. Par contre, si vous prenez des pays comme le Congo ou la RDC, où il n'y a pas deux saisons mais quatre saisons, en ce moment, le paludisme est permanent. Il n'est pas saisonnier. Tout le temps, il y a du paludisme. Et le pic se voit presque tout le temps, tout le temps. Alors que chez nous, c'est pendant la saison des pluies seulement que le nombre de cas est le plus important. Que c'est en 4 mois seulement, nous avons près de 60% des cas du paludisme de l'année. C'est ça qui fait qu'on parle de paludisme saisonnier.
Quels sont donc les pays où le paludisme saisonnier sévit le plus?
Si vous regardez justement l'Afrique, il y a ce que nous appelons la zone sahélo-sahélienne qui s'étend du Sénégal jusqu'à la Corne de l'Afrique. Le Burkina, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, une partie du Nigeria, une partie du Cameroun, et allant jusqu'au Soudan, Éthiopie et Somalie. Et cette zone-là, c'est une zone où le paludisme sévit beaucoup plus pendant la saison des pluies, parce que c'est des zones où la saisonnalité se voit nettement bien. C'est deux saisons, une saison sèche et une saison de pluie.
D'avril 2017 à 2020, vous avez mené une étude sur la vaccination saisonnière contre le paludisme avec la chimioprévention du paludisme saisonnier. Pourquoi cette étude?
La chimioprévention du paludisme saisonnier. Ça, c'est une stratégie qui est déjà adoptée par l'OMS depuis 2012 et qui est déjà déployée dans la plupart des pays du Sahel, y compris bien sûr notre pays. Et donc, tous les pays sont couverts déjà par cette stratégie de lutte contre le paludisme qui est une prévention chez les enfants de moins de 5 ans avec deux médicaments qui est la sulfadoxine pyrimétamine et la modiaquine qu'on donne aux enfants pendant cette saison-là. Maintenant, pourquoi nous avons voulu associer à cette stratégie déjà qui existe une autre stratégie pour faire une combinaison? C'est tout simplement dû au fait que malgré qu'on fait la CPS d'une bonne manière, on n'arrive pas à réduire drastiquement l'incidence du paludisme au Burkina, tout comme dans les autres pays du Sahel. Notre pays est toujours dans cette problématique de la lutte contre le paludisme. Donc il faut trouver d'autres stratégies, d'autres interventions plus efficaces. C'est pourquoi nous avons voulu combiner la CPS et la vaccination avec le RTSS, qui est déjà prouvé en phase 3 qu'il était efficace, même si le taux d'efficacité était un peu faible.
Pouvez-vous nous dire dans quelle zone vous avez mené cette étude? Et comment est-ce que vous l'avez menée et aussi quel a été le public cible?
C'est une étude avec plusieurs pays ou plusieurs sites. Le premier site, c'est le Burkina et plus précisément dans le district sanitaire de Houndé. L'autre site, c'est le site de Bougouni qui est également un peu au centre entre Sikasso et puis Bamako. Ce sont ces deux sites-là qui ont été choisis pour mener cette étude. Et ça, c'était dû au fait que nous avions déjà de l'expérience avec ces sites, avec d'autres études, et qui nous permettait donc de pouvoir travailler chez les enfants de moins de 5 ans, parce que la prévalence du paludisme dans ces zones était vraiment très élevée.
Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les résultats de cette étude?
Le premier impact déjà que je vais donner, c'est qu'à partir de nos résultats, l'OMS a pu faire la recommandation que le vaccin RTSS peut être déployé dans les pays pour prévenir le paludisme. qu'est-ce qui a réconforté l'OMS à faire la recommandation? C'est nos résultats sur le plan donc de la mortalité. C'est la toute première fois qu'une intervention sur le paludisme arrive à réduire la mortalité de plus de 70%. Sinon, le vaccin RTS seul n'arrivait pas à atteindre même la moitié de cela. La deuxième chose, c'est que avec cette combinaison, on réduit également la morbidité, c'est-à-dire l'incidence du paludisme de près de 60%.
Et c'est tout pour ce journal réalisé par Bourema Maïga. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.